Donc aujourd'hui, pour notre exploration approfondie, on s'attaque à un vrai morceau. C'est peut-être le texte biblique le plus complexe, vraiment saturé de rituels lévitiques un peu obscurs.
Ah ouais, clairement, c'est le livre qui rebute le plus de monde en général.
C'est ça. Mais en fait, on va voir que ça repose sur de subtiles altérations de traductions gréco-romaines et même, étonnamment, sur l'imagerie des philosophes païens.
Ouais, c'est assez paradoxal.
Complètement. Du coup, on va explorer les notes de recherche du docteur David de Silva sur l'Épître aux Hébreux. Et l'objectif de cette analyse, c'est vraiment de s'attaquer à ce qui est perçu comme le livre le plus impénétrable du Nouveau Testament.
C'est une montagne d'archaïsme à première vue, on est d'accord.
Voilà. Mais le paradoxe est saisissant, parce que ce texte mystérieux offre la vue la plus vertigineuse sur ce que faisait le Christ avant l'incarnation. Et il propose des concepts grandioses sur la cosmologie et la souffrance.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce document déconstruit complètement l'idée d'une théologie primitive isolée dans sa bulle, tu vois.
Ouais, il n'était pas du tout coupé du monde.
Exactement. Les notes du docteur De Silva mettent en évidence un pont extraordinaire jeté avec une précision chirurgicale entre la théologie juive antique et la haute philosophie gréco-romaine.
C'est pas juste de la théorie abstraite pour le plaisir de débattre.
Non, pas du tout. C'est un véritable manuel de survie. C'est conçu pour une communauté en crise et ça déploie des mécanismes de persuasion avec une sophistication rhétorique qui reste super pertinente aujourd'hui.
Et en parcourant ces sources, ça devient super évident. Pour quiconque s'intéresse à l'art de la communication persuasive, ou même à la façon dont les idées voyagent d'une culture à l'autre, bah c'est une mine d'or absolue.
Une vraie masterclass antique.
C'est le mot. Mais avant de décortiquer tout ça, il faut s'attaquer au plus grand mystère de l'histoire littéraire chrétienne. C'est un peu un cold case.
Ah, l'identité de l'auteur.
Voilà, qui a écrit sa épître?
Le texte ne porte aucune signature.
Mais la tradition a longtemps cherché à combler ce vide en l'attribuant à l'apôtre Paul.
Ce qui arrangeait bien tout le monde à l'époque.
C'est clair. C'était pas un hasard, ça répondait à un vrai besoin de validation pour entrer dans le canon biblique. D'ailleurs, si on regarde des manuscrits anciens, comme le fameux papyrus P46, qui date de l'an 200 environ...
Ouais, eh bien, le copiste a délibérément inséré la lettre aux Hébreux juste après celle aux Romains.
Pour lui donner du poids.
Exactement. Un poids apostolique indéniable. Et à la fin du document, il y a la mention de Timothée, un collaborateur super connu de Paul.
L'alibi parfait.
Voilà, ça a servi d'alibi pendant des siècles pour fermer le débat.
Sauf que, et c'est là que ça coince, les preuves internes dans les recherches contredisent cette thèse de façon vraiment flagrante. En gros, il y a un conflit majeur d'ADN théologique et même autobiographique.
Ouais, le point de rupture, il est au chapitre 2. L'auteur y admet ouvertement que le message du salut lui a été confirmé par ceux qu'il avait entendus en premier.
Donc il se place dans la deuxième génération.
C'est ça. Il a été converti par la prédication d'autres personnes.
Alors que Paul, quiconque lit l'Épître aux Galates, sait très bien que Paul défendait son autorité sur un principe non négociable.
Il disait qu'il avait reçu ça directement de Dieu.
En décortiquant tout ça, c'est un peu comme si quelqu'un prétendait être un prodige de la tech, genre le génie autodidacte qui a tout codé depuis zéro dans son garage.
Ouais, le mythe de la Silicon Valley.
Exactement, mais qu'il laisserait échapper en pleine interview à la télé qu'il a en fait appris les bases grâce au tuto d'un autre développeur.
C'est une super métaphore. Pour Paul, faire un aveu pareil, de transmission à direct, ce serait un suicide politique au sein de l'Église primitive.
Il l'aurait jamais fait.
Jamais. Et puis, il y a aussi une rupture radicale sur le plan du style.
Ah oui, le fameux style de Paul.
Paul, il se faisait un point d'honneur à avoir une prédication super dépouillée, pas d'artifice rhétorique. Il voulait que la force repose sur l'esprit, pas sur la forme.
Alors que là, l'auteur des Hébreux, il déploie un arsenal éblouissant.
Une sophistication de dingue, ouais. Et cette incompatibilité, elle était remarquée dès l'Antiquité, ce qui a provoqué plein de réticences avant d'accepter le texte dans le canon au IVe siècle.
Donc la piste de Paul, elle s'effondre totalement.
Mais du coup, les notes de recherche mentionnent d'autres suspects, non?
Oui, il y a Barnabas, le Lévite.
À cause de l'obsession du texte pour les prêtres, j'imagine.
C'est ça. Il y a aussi Apollos, un grand orateur d'Alexandrie. Lui, il correspond super bien au profil stylistique.
Mais il y a aussi cette théorie moderne qui est super populaire, qui suggère que l'auteur serait Priscille.
Ah, l'hypothèse féminine. Ouais. Avoir une femme leader à l'origine d'un des textes les plus denses du Nouveau Testament, ça bouscule pas mal d'idées reçues. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'elle ait simplement utilisé un pseudonyme masculin?
Pour se cacher?
Oui, ou masquer son identité juste pour être lue et prise au sérieux dans un monde super patriarcal.
Alors, l'hypothèse d'une dissimulation stratégique, elle est super séduisante, mais l'analyse linguistique la rend malheureusement caduque.
Ah bon?
À cause de quoi?
Le grec ancien, c'est une langue où les participes et les adjectifs s'accordent en genre. Et au chapitre 11, verset 32, l'auteur s'exprime à la première personne avec un participe masculin hyper spécifique.
Et on peut pas mettre ça sur le dos d'une faute de frappe ou d'orthographe ?
Vu le niveau de maîtrise linguistique exceptionnel du rédacteur, une erreur d'accord par inadvertance, c'est juste inconcevable. D'accord, mais et si c'était un déguisement intentionnel ? Genre un travestissement littéraire assumé pour contourner la censure.
C'est là que le contexte relationnel intervient pour clore le débat, en fait. À la fin de la lettre, l'auteur dit explicitement qu'il espère être rendu bientôt à sa communauté.
Ah, donc ils se connaissaient.
Irréfutablement, l'auditoire connaissait personnellement l'auteur. Ils avaient une histoire commune.
Donc ça rime à rien de faire semblant d'être un homme à l'écrit s'ils savent très bien qui parle.
Exactement. La ruse perd tout son sens. Au final, la position la plus honnête, c'est celle d'Origène dans l'Antiquité.
Dieu seul le sait.
Voilà. Mais c'était sans doute une figure intellectuelle majeure proche du cercle de Paul.
Bon, puisque le nom est perdu, son style d'écriture devient notre seule véritable empreinte digitale. Et l'analyse de cette syntaxe, elle révèle un orateur vraiment virtuose.
C'est le jour et la nuit avec les autres textes.
Rien à voir avec le registre habituel, oui.
La comparaison est frappante. Si tu prends l'évangile de Marc, par exemple, qui est la norme de l'époque...
C'est très basique, non ?
Ouais. Marc utilise une syntaxe qu'on appelle paratactique. Les phrases sont juste juxtaposées, avec des petits mots de liaison simples. Ça fait un rythme un peu saccadé.
C'est de la langue de tous les jours.
C'est utilitaire. Mais l'auteur des Hébreux, lui, il manie une syntaxe hypotactique. Il construit de longues périodes oratoires, avec plein de propositions subordonnées complexes.
Les fameux génitifs absolus.
Exactement. Il les maîtrise à la perfection. C'est clairement la signature d'un locuteur natif qui a eu la meilleure éducation de la haute société gréco-romaine.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce niveau de conception montre que c'est pas fait pour être lu en silence dans son lit.
Ah non, pas du tout.
C'est un discours pensé pour résonner physiquement, à voix haute. La conception sonore du truc est dingue. Rien que dans l'ouverture, les 12 premiers mots grecs balancent une allitération spectaculaire sur 5 sons P.
C'est de la pyrotechnie verbale.
Totalement. Et l'auteur utilise aussi ce que les experts appellent des homoarctons et des homotélutons.
Pour faire des rimes internes ?
Oui, il fait vraiment du sound design en fait. C'est comme un musicien de jazz qui joue sur le rythme, les respirations, les assonances, tout ça pour hypnotiser son public.
Parce qu'il sait très bien que dans l'Antiquité, les gens écoutent.
L'écrit n'est qu'une partition pour la voix.
Exactement. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on comprend que cette musicalité, c'est pas juste de l'instinct. C'est le fruit d'une méthode super rigoureuse.
Une formation spécifique ?
Ouais, issue des progymnasmata. C'était le programme d'exercice de rhétorique au cœur de l'éducation gréco-romaine.
Un genre de camp d'entraînement pour orateurs ?
C'est exactement ça. Les étudiants apprenaient à structurer et amplifier un argument selon des schémas hyper précis avant même de faire du droit ou de la philo.
Mais comment cette mécanique scolaire, qui est païenne à la base, se retrouve concrètement dans l'argumentation théologique du texte ?
L'exemple le plus flagrant, c'est au chapitre 12. L'auteur fait un discours sur la souffrance et il suit le schéma des progymnasmata avec une précision clinique.
Étape par étape.
Étape par étape. D'abord, il pose sa thèse, qu'il tire des proverbes l'importance d'accepter la discipline divine.
Ok.
Ensuite, il donne la justification logique. Puis, il balance l'argument par le contraire, un grand classique de la rhétorique.
Genre, s'il n'y a pas de discipline, c'est qu'on est des enfants illégitimes.
Voilà. Et après, il passe à l'analogie. Il fait un parallèle entre la correction des parents biologiques, qui est imparfaite mais utile, et la discipline parfaite de Dieu.
C'est une architecture argumentative implacable. C'est fait pour bloquer tout échappatoire intellectuel à celui qui écoute.
Et le coup de grâce, il est dans la conclusion. L'auteur va carrément piquer une maxime célèbre du monde académique antique.
Celle d'Isocrate ou d'Aristote ?
Ouais, celle qui disait que les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Il l'a réécrit pour l'appliquer à la discipline spirituelle.
En gardant les termes techniques grecs, je parais.
Bien sûr. Il utilise peideia pour la formation et karpos pour le fruit. En faisant ça, il prouve à son public super cultivé que sa théologie, elle tient la route face à la plus haute sagesse gréco-romaine.
Donc, cette virtuosité, c'est pas juste un vernis esthétique, pour faire joli. En lisant les notes du docteur De Silva, on voit que cette immersion dans la culture hellénistique a littéralement permis d'inventer de nouveaux arguments théologiques.
C'est un moteur créatif, en fait.
Et le mécanisme central, c'est ce qu'on pourrait appeler un remix. C'est-à-dire que la traduction linguistique engendre purement et simplement la théologie.
Le contexte de la langue est hyper déterminant. L'auteur vit dans la diaspora, donc il utilise l'Ancien Testament.
Mais en grec.
Exclusivement à travers la Septante, oui. Et toute traduction crée un glissement de sens.
C'est obligé.
Et lui, il exploite avec génie les ambiguïtés que ces traducteurs grecs ont laissées des siècles plus tôt.
T'as un exemple en tête, hein ?
Prends le psaume 8. En hébreu original, ça parlait de la place de l'homme dans la création. Ça disait qu'il a été fait un peu inférieur aux anges.
Donc une distance spatiale, un échelon en dessous.
Exactement. Mais le terme grec de la Septante, il a une ambiguïté temporelle.
Ah, l'espace devient du temps.
C'est le basculement total. L'auteur s'engouffre là-dedans et dit que ça veut dire « pour un peu de temps ».
Ça change tout.
Ça lui permet de formuler une christologie révolutionnaire. Jésus n'est pas structurellement inférieur aux anges, il a juste été rendu inférieur le temps de son incarnation avant d'être couronné de gloire.
Attends, ça soulève quand même un énorme problème de crédibilité, non ? L'histoire du psaume 40 dans les sources, c'est encore pire.
Le fameux passage du corps préparé.
Ouais. L'hébreu originel disait « tu m'as creusé des oreilles ». Une métaphore hyper viscérale sur l'obéissance, le sculpteur, l'argile, tout ça.
Et notre traducteur grec n'a pas du tout aimé cette image.
Il a trouvé ça trop bizarre, donc il a paraphrasé par « tu m'as préparé un corps ». Mais l'auteur des Hébreux prend cette traduction spécifique pour prouver la nécessité d'une incarnation charnelle et d'un sacrifice physique.
Il base sa démonstration dessus.
Mais si toute cette doctrine monumentale repose sur une erreur de traduction ou, disons, une licence poétique, ça casse pas complètement son autorité face aux gens de l'époque.
Cela soulève une question importante sur l'herméneutique de l'époque. Pour les Juifs hellénisés d'Alexandrie ou de l'Empire, la Septante, c'était pas une simple traduction ratée.
C'était inspiré en soi, hein ?
Totalement. Ce glissement sémantique, c'était pas une erreur pour eux, c'était une révélation continue.
Comme si Dieu avait caché un sens pour plus tard.
C'est ça, un sens mis en réserve par l'esprit pour le moment présent. C'est un changement de paradigme énorme. L'auteur prend les outils de sa culture pour rendre le message compréhensible.
Et cette porosité culturelle, elle s'arrête pas à la Bible. Il va carrément piocher dans la philosophie païenne.
C'est clair, les sources le documentent super bien. Par exemple, il emprunte au stoïcien Épictète l'image du lait pour les bébés contre la nourriture solide pour les adultes.
Épictète utilisait ça pour clasher ses élèves qui refusaient de grandir intellectuellement, c'est ça, hein ?
Exactement. Et l'auteur calque la même dynamique pour secouer son propre public.
Il reprend aussi la maxime d'Eschyle. Il a souffert, il a appris. Et toutes ces métaphores de sport gréco-romain.
Le stade, la course, la lutte sanglante.
Il transforme tout ça en image d'endurance morale chrétienne.
Mais le sommet de cette méthode, c'est vraiment l'intégration de la figure de Socrate.
Attends, Socrate dans la Bible ?
De façon conceptuelle, oui. Dans le monde antique, la mort, c'est la terreur absolue. Ça paralyse l'humanité.
C'est l'esclavage de la peur.
Le philosophe qui a vaincu cette peur, le boss final, c'est Socrate. Des gens comme Sénèque en ont fait le martyr parfait, qui boit la ciguë sans trembler.
D'accord, mais pourquoi calquer ce modèle gréco-romain sur Jésus-là ? Les histoires de martyrs juifs, ça suffisait pas ?
Parce qu'il veut parler la grammaire émotionnelle de ses auditeurs. En appliquant l'image du sage stoïque qui triomphe de la mort à un charpentier crucifié, il fait un tour de force.
Il dit que le Christ a accompli le rêve ultime de la philosophie païenne.
Exactement. Il dit « l'idéal que votre culture cherche depuis toujours, sa réalité historique, elle est là. Il a libéré les humains de la peur de la mort. »
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Si on rassemble toutes les pièces de cette enquête dans les notes du docteur De Silva, on a un document écrit par un génie anonyme.
Quelqu'un de l'entourage de Paul, oui.
Et c'est pas juste un traité ennuyeux, c'est une fusion architecturale entre la tradition juive et la haute philosophie gréco-romaine. Et surtout, ça a un but thérapeutique urgent.
Révitaliser un public complètement épuisé.
Voilà, et cet épuisement, c'est pas juste qu'ils en avaient marre d'aller aux réunions.
Non, c'était socio-économique. Ces gens subissaient une vraie marginalisation, on leur volait leurs biens, on les ostracisait.
C'est la fatigue d'une minorité oppressée par une société qui exige qu'on se conforme.
Et ce manuel de rhétorique, c'est un défibrillateur pour cette communauté en chute libre.
Et c'est ça qui rend le texte super moderne, en fait.
Complètement intemporé. L'appel final de l'auteur, c'est de mépriser la honte.
Ce qui est énorme dans une culture de l'honneur comme la leur.
Demander d'arrêter de chercher l'approbation de la majorité, c'était de la subversion pure. Et il insiste sur la solidarité. Il sait qu'on ne peut pas résister à la pression tout seul.
Face à notre monde hyper individualiste aujourd'hui, cette insistance sur la communauté, ça frappe juste...
Une acuité psychologique brillante.
Et en plongeant dans la mécanique de ce texte, bimillénaire, on est forcé de réfléchir à comment les idées se transmettent.
Ouais, l'effet papillon des traductions.
C'est ça. On a vu comment des petits glissements, l'espace qui devient du temps, des oreilles creusées qui deviennent un corps couplé, à des figures païennes comme Socrate, ont pu orienter une théologie naissante.
De façon radicale.
Du coup, ça laisse vraiment une question vertigineuse en suspens pour nous.
Laquelle ?
Quelle proportion de notre propre vision du monde moderne, de nos convictions les plus intimes, ne vient pas d'idées totalement pures, mais est en fait le résultat de petites dérives linguistiques ou de métaphores culturelles recyclées qu'on consomme tous les jours sans même s'en rendre compte ?
Ça remet pas mal de choses en perspective, c'est sûr.
C'est vraiment une pensée à garder en tête bien après la fin de cette exploration.